Laudetur Jesus Christus.
Important coup de filet de la police ce vendredi en Turquie. 82 personnes sont sous mandat d'arrêt. La majorité est membre du principal parti pro-kurde. Toutes les explications de notre correspondante à Istanbul dans quelques instants. La pandémie provoque un scandale d'État au Kenya. Des centaines de millions de dollars destinés à lutter contre le coronavirus auraient été volés. Des hauts fonctionnaires sont mêlés à l'affaire. Nous irons à Nairobi. Au Liban, les victimes de la double explosion du 4 août dans le port de Beyrouth, dédommagées financièrement. L'État libanais a débloqué hier 100 milliards de livres, en ce sens, soit plus de 50 millions d'euros. Et puis en fin de journal, nous retrouverons notre correspondante à Cuba. L'île caribéenne est visée par de nouvelles sanctions américaines, décrétées hier par le président. Un nouveau coup pour l'économie cubaine.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. L'inquiétude à Paris. Une attaque à l'arme blanche s'est produite ce matin près des anciens locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. 4 personnes sont blessées, 2 en urgence absolue. Le suspect vient d'être interpellé par la police près de la place de la Bastille. Le Premier ministre français Jean Castex évoque un événement grave, ouvre une cellule de crise. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Je vous le disais donc en titre, 82 personnes sont sous mandat d'arrêt en Turquie. La décision du parquet d'Ankara est tombée ce matin. Parmi eux, de nombreux membres du principal parti pro-kurde, le HDP, la deuxième force d'opposition au Parlement. Les faits qui leur sont reprochés remontent à l'automne 2014, à l'époque où des manifestations de soutien à la ville syrienne de Kobané avaient éclaté en Turquie. À Istanbul, les précisions d'Anne Andlauer.
Dès les premières heures du jour, des policiers ont frappé aux portes de 82 personnes dans 7 provinces de Turquie. Le coup de filet vise principalement des membres du Parti démocratique des peuples, le HDP, dont le maire de la ville de Kars, dans l'est du pays, et d'anciens députés ou cadres dirigeants du principal parti pro-kurde. Leur point commun, ils étaient tous en poste début octobre 2014, quand des manifestations avaient éclaté en soutien à la ville kurde syrienne de Kobané, assiégée à l'époque par le groupe État islamique. Les protestations avaient dégénéré en affrontements violents avec les forces de sécurité, mais aussi entre groupes politiques rivaux. Selon le bilan officiel, 37 personnes avaient été tuées. Le parquet d'Ankara qui coordonne l'enquête accuse notamment les suspects d'avoir, je cite, « appelé à de nombreuses reprises le peuple à descendre dans la rue dans le but de mener des actions terroristes ». Dénonçant ce coup de filet mené 6 ans après les faits, des responsables du HDP ont fustigé une opération politique visant, selon eux, à affaiblir davantage leur parti, dont des milliers de membres ont déjà été arrêtés ces dernières années. Parmi eux, l'ancien co-dirigeant du parti, Selahattin Demirtas, incarcéré depuis 4 ans. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
Israël amplifie les restrictions contre la pandémie. L'État hébreu, sévèrement confiné depuis la semaine dernière et pour encore 2 semaines, interdit à compter d'aujourd'hui les déplacements internationaux par avion. Seuls les Israéliens seront autorisés à entrer dans le pays sans restriction. Tel Aviv qui impose également à compter d'aujourd'hui la fermeture de toutes les synagogues, sauf pour les commémorations lundi de Yom Kippour, jour du grand pardon dans le judaïsme. Le coronavirus qui électrise de plus en plus les esprits en France. Aujourd'hui a lieu à Marseille une manifestation tendue contre les mesures sanitaires incomprises et annoncées par le gouvernement avant-hier. La coupe est pleine, laissez-nous travailler, crient des centaines de restaurateurs soutenus par des élus de tous bords. Le ministre de la Santé est attendu sur place. À partir de demain, bars et restaurants de cette seconde ville de France fermeront. La pandémie qui provoque un scandale d'État, c'est au Kenya. Des centaines de millions de dollars destinés à lutter contre le coronavirus auraient été détournés. Plusieurs hauts fonctionnaires et hommes d'affaires sont impliqués. Une enquête ordonnée par le président Kenyatta est en cours, menée par la commission d'éthique et de lutte contre la corruption. À Nairobi, Charlotte Simonard.
Dans le viseur des enquêteurs, au moins 15 hauts fonctionnaires et hommes d'affaires kényans. Ils sont accusés d'avoir dérobé 400 millions de dollars de fournitures médicales nécessaires à la lutte contre le coronavirus. Disparu également un don de matériel offert en mars dernier par le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba. Au cœur de l'enquête, la KEMSA, l'Agence nationale des médicaments chargée d'approvisionner les hôpitaux publics. Copinage politique, corruption à grande échelle et hommes d'affaires véreux. L'affaire ébranle le Kenya alors que le personnel de santé ne cesse de crier son désarroi face au manque de moyens pour soigner les malades. Résultat, des manifestations ont éclaté dans les grandes villes du pays et des grèves sont en cours dans les hôpitaux publics. Pour calmer le jeu, le président Uhuru Kenyatta a promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Il exige la publication des détails de tous les achats effectués durant la pandémie. Pas sûr que cela suffise pour rétablir la confiance de la population, lassée des scandales de corruption qui éclaboussent depuis bien trop longtemps sa classe politique.
Charlotte Simonard à Nairobi. Double journée d'investiture au Mali, le nouveau président désigné par la junte, Bah Endo, et son vice-président, le colonel Goïta, doivent prêter serment. Aucun chef d'État africain n'est attendu pour cette cérémonie qui s'annonce sobre. La levée de l'embargo décrété par la CDAO est toujours en discussion. Lors du dédommagement au Liban, les autorités ont annoncé hier le déblocage d'une enveloppe de 100 milliards de livres libanaises. Elle sera destinée aux victimes de la double explosion du 4 août, qui avait fait 192 morts, plus de 6500 blessés et détruit une partie de la capitale. À Beyrouth, toutes les explications de Paul Khalife.
Plus de 60 000 habitations, 20 000 entreprises commerciales et bureaux et un millier de restaurants ont été détruits ou endommagés par l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées au port de Beyrouth, selon une évaluation établie par l'armée libanaise. Les victimes de la catastrophe devront se partager la somme de 100 milliards de livres, c'est-à-dire 66 millions de dollars au taux officiel et 13 millions de dollars au marché noir. Un montant dérisoire vu l'étendue des dégâts et le nombre de personnes à dédommager. Les pertes sont estimées entre 3 et 15 milliards de dollars, un chiffre avancé par le président de la République, Michel Aoun. En proie à une crise économique et financière sans précédent et des caisses du trésor vides, le Liban n'a pas les moyens de reconstruire sa capitale dévastée par la double explosion. Il compte sur l'aide de la communauté internationale qui s'est déjà engagée à hauteur de 250 millions d'euros lors d'une conférence co-organisée par la France et l'ONU début août. Une autre conférence doit être organisée à l'initiative du président français Emmanuel Macron fin octobre pour une nouvelle levée de fonds destinée à soutenir les réformes structurelles que le Liban est invité à entreprendre. Mais l'aide internationale est conditionnée à la formation du nouveau gouvernement qui peine à voir le jour à cause des querelles entre les forces politiques libanaises. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Après son revers devant la justice européenne, la Commission européenne fait appel dans le cadre de l'affaire du remboursement d'Apple à l'Irlande. Les juges de l'UE avaient annulé cette décision, exigeant à l'entreprise américaine de rendre les 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux à Bruxelles. Un recours donc à suivre. Le Parlement devient bicaméral au Turkménistan. Le pays valide aujourd'hui une réforme constitutionnelle en ce sens. Une initiative qui, selon des experts, pourrait signifier que l'autoritaire président du pays organise sa succession en faveur de son fils. Partons maintenant à Cuba. L'île caribéenne fait les frais de la campagne pour les élections américaines. Donald Trump a en effet annoncé de nouvelles sanctions contre l'île et son secteur touristique. Les Américains auront désormais interdiction de séjourner dans les hôtels d'État et de ramener aux États-Unis du rhum et des cigares. Une sanction qui, à long terme, aura un fort impact sur l'économie de l'île. Les précisions à la Havane de Domiti Piron.
Plus d'hôtels, de tabac ni de rhum pour les Américains. Donald Trump vient d'annoncer de nouvelles restrictions contre le tourisme à Cuba. Des interdictions qui auront un impact concret sur les finances cubaines puisque tous les hôtels de l'île ainsi que l'industrie du tabac et de l'alcool sont propriétés d'État. Les Américains devront également désormais demander une autorisation spécifique pour voyager sur l'île pour des séminaires, compétitions sportives ou expositions. Ces mesures n'ont pour l'instant aucune répercussion puisque les frontières cubaines sont fermées pour cause de coronavirus, mais elles entrent en vigueur à quelques semaines de l'élection américaine et l'annonce a été faite devant un parterre de vétérans de la baie des cochons, cette tentative d'invasion ratée en 1961 par des cubano-américains opposés à la révolution et soutenus par les États-Unis. Pour Cuba, ces sanctions sont donc un cadeau évident à l'électorat de Donald Trump du sud de la Floride, où réside la majorité des cubano-américains farouchement opposés au régime de la Havane, sachant que la Floride est un état clé pour les élections américaines. Il y a quelques jours, le président cubain Miguel Díaz-Canel dénonçait à l'Assemblée générale des Nations unies l'intensification et l'agressivité du blocus américain. Domiti Piron, La Havane, pour Radio Vatican.
Les mineurs polonais en grève aujourd'hui contre les projets d'une réforme du secteur. Ils sont quelques centaines de mineurs à être donc restés sous terre ce vendredi. Ils protestent contre la fermeture totale des mines d'ici 2050, telle qu'envisagée par le gouvernement. Le président polonais Andrzej Duda, justement, qui a été reçu ce matin par le pape François au palais apostolique. C'est leur quatrième rencontre en cinq ans. Il s'agissait aussi de la première visite officielle d'un chef d'État étranger au Vatican depuis l'apparition de la pandémie. Ainsi se referme cette édition. Merci beaucoup d'être fidèle aux informations du Saint-Siège de l'Église et du Monde par Radio Vatican à Rome. Le retour de l'actualité, c'est ce soir à 18h. Très belle journée.